Jean Giraudoux, Juliette au pays des hommes. Chapitre 1er. Le ruisseau soudain ne coulait plus. Les vergnes ne bruissaient plus. Les champs où les glaneurs avaient laissé un seul épi avaient l'odeur du pain. Les carrés de vigne où le raisin était encore vert sentaient le pressoir. Parfois un nuage couvrait le soleil. Alors, pour cette seconde éclipse, le ruisseau coulait à nouveau, les vergnes bruissaient, un merle se perchait et aspirait l'air comme un homme. Mourir en pêchant les écrevisses. Gérard, qui dormait après avoir tendu ses balances, ouvrit les yeux. Les faveurs divines, les grâces efficaces éparses dans ce gazon, valurent surtout pour lui les bonheurs que ses ascendants et lui-même s'étaient, par le travail de 20 générations, préparés à grands frais. Il se trouvait sucer une paille, et jouissance exactement égale, il avait 200 000 francs de rente. Il portait une ombre de merle sur le front, une ombre qui couvrait le bec, et pesait équivalente sur toute l'âme, la silhouette d'une fiancée riche, pure et dénommée Juliette. Son pied était attaqué par un chatouillement exquis, ou plutôt par un eczéma incomparable, ou plutôt encore par une adorablement délicieuse gale, et il descendait de Guizot. Sa main couvrait un chardon. Il suffisait de la contracter pour se sentir assaillir intérieurement par un porc-épic, de l'ouvrir pour avoir le cœur libéré d'une châtaigne en coque. Et il avait une hispano-suiza. Puis flambèrent des éclairs de bonheur trop fulgurants pour susciter leur équivalent dans un autre domaine de la joie. Un martin pêcheur, un autre martin pêcheur, oiseaux intraduisibles. Puis, troisième stade du réveil, l'équilibre s'établit au contraire entre les merveilles de la nature et les avantages secondaires de sa vie courante. Il avait à sa droite le soleil couchant et à sa gauche un fond de bouteille d'absinthe. Il possédait l'été. Oh oui, rien à faire, l'été était à lui. Et il possédait aussi, dans la faible mesure évidemment, où les objets nous appartiennent, un moulinet gramme pour les truites. Mourir en vivant à 600 ans, 1000 ans. Les derniers coups de feu retentissaient dans cette campagne dépeuplée en paysans, surpeuplée en chasseurs, et qui n'avait gardé d'invariable que son contingent de poètes. En sécurité près de Gérard, les petits animaux familiers lui adressaient ces signes de confiance. Il leur faut bien en temps d'ouverture réservée aux pêcheurs. Les grives, les râles, les oiseaux qu'engraisse l'automne se posaient près de lui sans que leur jabot le fît encore basculer. Un ramier voleta au-dessus de sa tête et lui apprit toutes les modulations de la langue, la plus tendre, la seule que son aïeul n'apprit point aux apôtres, celle des ramiers. « Ô coulon, ô palombe !» lui criait Gérard, dans le dur langage des hommes. Il était temps d'aller lever les balances. Déjà, sauvé par cette sieste trop longue, la génération des jeunes écrevisses non méfiantes avait mangé son sou et se retirait devant les mères prudentes et rabâcheuses, désormais rassurées. Du geste dont le scorpion qu'agace les enfants retourne vers soi sa queue, enfonçant sa tête son dard et y mange son heureuse vie de scorpion, Gérard éleva son bras gauche, l'arrondit, porta contre ses yeux sa montre bracelet et tua sa plus belle minute. Il se dressa sur son séant et ce mouvement suffit pour que rien en lui ne s'équilibre plus. Paille et fiancée, soleil et absinthe. Il se recoucha. On ne retrouve pas deux fois son empreinte dans le bonheur. Le chardon était maintenant sous sa tête. Il se leva. C'est par un effort de ce genre, voilà 1000 ans, qu'un de ses ancêtres, tout nu et chevelu, ancêtre aussi de Guizot, avait arraché sa conscience à celle de la nature. Les prés, l'eau fugitive, Cette distribution d'amarantes par le couchant à chaque arbuste figurant donnèrent soudain à Gérard ce qui ne lui était venu jusqu'à ce jour que par la vue des grands mariages, l'orgueil de sa condition d'homme. Par un de ces calembours qui articulent hypocritement tous les traités de métaphysique, il passa cette minute divine à rien de moins qu'à sa divinité. Il ne put s'empêcher de sourire à l'idée qu'un dieu, penché sur un ruisseau, allait pêcher les écrevisses, les accommoder au retour, lui-même en courbouillon, avec du laurier, des carottes, les manger. Mais Juliette arrivait. Juliette était maussade, car elle venait de s'éveiller, au contraire de Gérard, avec l'impression que notre planète est encore en travail de contraction, et l'homme une sorte d'insecte. La terre, surtout, lui semblait tremper encore dans le bain primitif. Les sources, les ruisseaux, n'étaient que sérum. Cela lui tournait le cœur. Elle avait dû pousser une barrière fraîchement peinte, lutter en pleine crise de confiance avec la terre contre une série d'objets ridicules dont les noms mêmes ne sont que des diminutifs, chevillettes, portillons. Elle arrivait vers Gérard dégoûtée, comme aucun être humain ne le fut avant elle. Des vêtements, des loquets et de la parole articulée. Si bien que tout ce que purent les fiancés fut de diriger la conversation sur les écrevisses dont Gérard se considérait le frère par orgueil, elle la sœur par humilité, et ils levèrent les balances. D'où la génération des écrevisses, prudentes, maintenant rassasiées, achevait de disparaître sous la pression des étourdis, affamés de rechefs et voués d'ailleurs, par définition, à la mort. Juliette, pour que je ne sais quelle enquête chimique, conduisait Gérard sans qu'il s'en doutât aux places les plus ensoleillées ou les plus sombres. Il écoutait sa voix, il observait ses gestes, non sans y éprouver aussi par la même occasion le diamant de sa bague de fiançailles. Alors qu'elle-même se sentait ce soir de nature interstellaire, elle trouvait dans la parole de Gérard un timbre terrestre qui le situait aussi impitoyablement sur cette planète qu'un accent bordelais vous situe à Bordeaux. Rien de plus terrestre aussi, cet été, que les vestons à martingale. Impossible avec ce veston de Roger Gérard, sans scandale dans aucun de ces espaces où elle, parisienne du firmament, pouvait indifféremment circuler. Impossible de situer ses chaussettes dans Sirius, cette moustache dans l'étoile du matin. Certes, l'astre sur lequel Gérard convenait encore le mieux, avec sa ceinture à initiales, ses boutons de manchette à blason, c'était celui des lapins russes, de Guizot, de Thiers et de la tour Eiffel. Juliette eut le sentiment qu'elle allait épouser, qu'elle aimait, l'homme le plus provincial de l'infini, et deux pleurs coulèrent sur son visage, où rien n'avait été prévu pourtant pour l'écoulement des larmes. « Quel bel air sec !» disait Gérard. « Il est ridicule pour deux fiancés, » se disait Juliette, « d'avoir leur premier malentendu à propos de l'humilité de la terre. Mais tant pis, Gérard l'a voulu. Je réalise ce soir mon projet. Vous dites, Gérard, quel bel air sec! Comme je suis inconséquente !» pensait encore Juliette. Je me sens en ce moment au-dessus de toute loi divine et humaine, et Gérard m'irrite en contrevenant au décret des gardes champêtres, en ne rejetant pas au ruisseau les écrevisses inférieures à la taille égale, en pêchant avec les balances à filet étroit. Voilà qu'il chave. Mais pourquoi cet accro aux lois préfectorales ne meurtrit-il le cœur? Tu dis, Gérard, il y a de la poussière sur ce ruisseau. Maintenant, il revenait, Juliette par la route, Gérard par l'accotement, et c'était seulement les pas de celle qui pesait si peu ce soir sur le monde que l'on entendait. L'oiseau le plus silencieux d'Auvergne, le râle d'eau, poussait sa plainte hebdomadaire. L'arbuste le plus rigide du massif central, le genièvre, frissonnait. Gérard savourait cette résonance inhabituelle de sa compagne, dans laquelle, d'ailleurs, les fleurs, tout spécialement inodorantes, embaumaient cette nuit, le dahlia, la marguerite, et ouvrirent soudain les objets ternes par nature, granites et troncs d'arbres. Ainsi, grâce au fracas des chouettes, aux effluves du bleuet et à la transparence des ardoises, le bonheur montait dans son âme par des chemins neufs, et il n'était pas loin de se croire de nouveaux sens. Ouvert aux plages de son corps les moins sensibles, gras de son bras ou clavicule, jusqu'à son squelette qui prenait à son compte les mouvements des poumons et du cœur. Gérard se sentait ému d'une angoisse qu'il n'avait connue qu'à la veille des baccalauréats, car chaque lueur, chaque bruit, l'appelait comme une convocation à laquelle il n'avait pas toujours le sentiment de répondre par l'émotion juste. Des chauves-souris s'engouffraient entre deux, revenant puis repassant, ne cherchant pas d'autres arts à cette nuit que des arches humaines. Gérard songeait que les braconniers, cachés dans les joncs, entendant leurs deux voix et le seul pas de Juliette, alourdi par les filets, pouvait croire qu'elle le portait dans ses bras. De sorte, aussi silencieux qu'un fiancé, nageant le long de la digue où se promène sa fiancée, qu'il nageait dans la nuit, dans l'estime du monde, dans l'honneur humain, et un désir de beau mobilier, de vaisselle, de style et de pièces de forme l'inondait. Toute pression du soir, chant de rossignol, bétail éclairé dans l'étable par une lanterne, ouvrait en lui un casier où étincelait en porcelaine du XVIIIe siècle surtout un magnifique objet usuel. Toutes les étapes successives de la lutte de Paris, de Sèvres, de Vincennes, à la recherche de la vraie pâte tendre, il les parcourut sur un chemin sentimental et parallèle à la recherche de la tendresse elle-même, à l'aide de ce crépuscule, avec parfois un attendrissement subi et déréglé pour les monogrammes dans le vieux Rouen. Bref, c'était un jeune homme vieux de 20 ans, près d'une jeune fille de 20 000 ans. C'était la province. L'oncle de Juliette attendait les pêcheurs à l'entrée du parc, assis sur le banc d'où il tirait tout gibier et qu'on repeignait à la hâte dans les 3 seuls jours de l'année où aucune chasse n'est permise. Il donna à leur vue tous les signes que doit provoquer un passage de fiancé. Il les visa de sa canne, il s'embrassa bruyamment la main, et l'oncle de Juliette, dont il ne sera plus jamais parlé ici, était un de ces personnages à peine épisodiques, qui ne jouent dans les romans aucune espèce de rôle, mais qui, bien plus que les héros, inspirent le désir irrésistible de connaître la date et le jour de leur naissance, tous leurs prénoms, leurs principaux vices, et naturellement, avec plus de détails encore, tous les faits, gestes et signes particuliers de leurs ascendants. L'oncle de Juliette était de la ville de France, où les chapeliers fixent de petites glaces au fond des chapeaux pour que le possesseur en visite puisse corriger sa toilette. Né le 21 février 1857, quand il était privé de son chapeau, il avait pris l'habitude de regarder la paume de sa main. L'oncle de Juliette ne bégayait pas, ne zézayait pas, ne zozotait pas, et confirmait le 12 juillet 1859 du doigt léger de Monseigneur de Valloux, sur la joue encore rouge où son oncle, l'oncle de l'oncle de Juliette, autre personnage plus épisodique et plus insignifiant encore, mais ne nous laissons pas entraîner, il n'avait pas d'autre originalité que son affection pour les traîtres célèbres. Il leur avait réservé son parc. La plupart des allées en étaient dénommées d'après ceux qui ont trahi avec quelque éclat le devoir, la patrie, la religion, et chaque année il élevait dans quelque rond-point choisit au prix de gros, sur le catalogue d'un marbrier funéraire, un monument. À droite du banc de Bécasse, c'était par exemple la stèle brisée de Jean de Ligny, qui livra Jeanne aux Anglais. Dominant la Cressonnière, le monument de Judas, petit obélisque en granit des Vosges à oreillettes de fonte, auquel il attachait son chien, le transformant d'ailleurs ainsi en monument de la fidélité. Sur l'île, entre les ifs, le bélier égyptien dédié au connétable de Bourbon, le plus respecté, le plus choyé, car il était originaire du pays. À part Judas, en somme, et Talleyrand, presque tous des militaires. Le long du canal, quelques colonnades vouées non plus aux traîtres, mais aux traîtrises et félonies, aux abstractions. Renversement des alliances, conduite des Saxons à Leipzig, dissolution du cabinet Lègue, et sous tant de sarcophages, pierres et buttes, ne reposait qu'un seul corps, celui d'un paysan du bourg, insoumis, mais revenu mourir au pays et que le curé avait expulsé du cimetière. Le parfum de l'enfer flottait sur ce clos mi-bourbonnais, mi-auvergnat, inscrit entre le sombre puits Chopine et le plomb de Chantelle, et qui correspondait exactement, par ses locataires, à l'un des cercles de Dante. Mais au lieu des âmes incolores, des réprouvés, volaient des faisans que l'oncle félicitait tout haut d'avoir trahi les Indes, des paons infidèles à la Perse, et plusieurs fois l'an, l'oncle de Juliette, président de Philharmonique, y faisait jouer des polkas, des mazurkas de sa composition intitulée Waterloo ou Agincourt. Car les défaites étaient pour lui des trahisons du sort. Tel était l'oncle de Juliette, personnage épisodique s'il en fut, qui réclamait, fidèle à ses traîtres, d'être enterré dans son propre parc, dont je puis donner les dates complètes d'état civil, puisqu'il vient de mourir au début de ce mois, le 7 juin 1924, dont il ne sera plus jamais parlé, et nulle part. L'oncle de Juliette, quand le dîner eut pris fin, l'accompagna jusqu'à sa chambre, séparée de la sienne par la bibliothèque. Ainsi, tous deux dormaient chaque nuit, écoutant les soupirs de l'autre, songeant à la vie de l'autre, chacun à travers ce qu'il croyait son affection, et qui était un peu sa culture et ses lectures, elle à travers une cloison de racines de Beaumarchais, de Baudelaire, épiant les rêves d'un vieillard, et lui, ceux d'une jeune fille à travers Eugène Sue, Voltaire et Pixérécourt. Juliette se mit à sa fenêtre, tout juste au-dessus de Gérard, qui de son balcon, à la vue de la Voie lactée, avait soudain l'idée des inflexions futures du Lunéville. La campagne était assez silencieuse pour que le vol des hiboux y devint perceptible. Arrêtés pour la nuit dans la migration qui les avait amenés en moins de 2000 ans au Limousin, les châtaigniers, la dernière racine encore levée, portaient sur eux-mêmes leur ombre, car la lune était montée aussi haut que peut monter la lune. Tous les diamètres entre les constellations étaient d'ailleurs cette nuit-là tendus à craquer. La route aussi était tendue d'Aigueperse à Randan, et tout chariot, toute bicyclette qui s'y risquait, y résonnait, y grésillait, attaquait le cœur. Repoussant ses volets doucement, comme Noé, les volets de l'arche, le jour où les eaux commencèrent à baisser, accoudés sur les jasmins de la barre d'appui dont les branches poussaient cette nuit-là assez vite pour s'enrouler peu à peu autour de ses bras et de sa tête, inondant Gérard, précisément à chaque mouvement d'humeur contre lui, à la fois de leur pollen et de leur parfum, Juliette, à travers le Cantique des Cantiques et l'Aure d'Émilie Clermont, voyait l'Auvergne s'élever, et à travers Paul-Louis Courier, entendait l'onde craquer des allumettes sous son lit, non par peur, mais pour en chasser les mouches qui s'y cachaient le jour comme des voleurs. Le clair de lune caressait la terre qui semblait sortir en effet d'une de ces crises de l'Ancien Testament et dont l'aspect biblique tournait au néo-alexandrin. Lasse d'avoir bondi comme des agneaux, les collines dormaient comme des génisses. Fières d'avoir bondi comme des béliers, les montagnes luisaient comme des taureaux. Une jeune fille ne peut guère soutenir au clair de lune un duel avec la terre. La planète traversa soudain le cœur de Juliette comme une balle. Mais c'était trop tard. Sa décision était prise. Car tout ce bonheur qu'elle avait, cet oncle qu'elle avait, ce fiancé, ce Baudelaire qu'elle avait, ce beau domaine, tout cela lui semblait depuis quelques jours être un point d'arrivée, pas un point de départ. Il lui semblait, tant elle était ce soir insensible, qu'elle avait à délivrer, elle ne savait tout, la vraie Juliette, qui viendrait redonner du goût à cette nuit et à cette nature. Il y avait à délivrer Juliette de tous ceux qui la tenaient, sans le savoir d'ailleurs, emprisonnée. Ou plutôt, il lui fallait rassembler pour la nuit de noces toutes ces Juliettes données par elle à des passants, à des inconnus, à des jeunes gens dont quelquefois elle avait entendu seulement le nom, partie d'elle à ces heures de demi-clarté ou de demi-désir, propices aux matérialisations. Elle pouvait les retrouver, elle était soigneuse. C'était la jeune fille qui avait perdu le moindre mouchoir en sa vie. Elle avait noté sur un carnet les possesseurs de tous ses doubles d'elle-même, laissés comme un manteau à des mains étrangères, et qu'elle sentait parfois réunies sur elle à la veille des semaines tristes, comme les mains mille peaux sur l'oignon quand l'hiver va être froid. Ainsi, celle qui poursuivait Hélène avec le plus d'amour et de raison, entrera dans Neige-Vite, fut Hélène elle-même. Ah, qu'il serait doux dans un bras de retrouver Gérard, qui au-dessous d'elle maintenant dormait, aussi paisible et content que Pénélope, alors qu'Ulysse n'avait rien dit encore des images de lui-même qu'il avait déjà projetées chez les filles de Lycomède, chez Circé et chez Calypso. De sorte que le lendemain, alors que Gérard faisait sa barbe, après avoir au réveil sous ses draps équilibré ses joies comme après sa sieste, il avait deux orteils qui se voulaient du bien et une maison en Provence. Il avait un moineau pris dans les rayons du bolet et une fiancée riche et pure nommée Juliette. Il trouva sous sa porte le billet suivant. Adieu pour un mois, Gérard. Je prends le train de 8h20. Je t'aime et dans un mois je serai ta femme. On ne saurait croire quelle grande peine peut équilibrer un simple coup de rasoir maladroit. Le premier soin au monde, même quand siffle le train qui emmène votre fiancée, ce n'est pas de courir à la fenêtre, c'est de courir à la glace, de sécher votre sang. Chapitre deuxième. La série des montagnes du Morvan, puis les collines du Gâtinais maintinrent dans la direction du nord la voie ferrée, et les alpilles de Colombes-la-Ville, puis le contrefort de Charenton la dirigèrent irrévocablement sur Paris. Dans le wagon, Juliette relisait la première page de son carnet. Jamais, depuis son enfance, elle n'était passée près d'un carrefour de sa destinée sans en noter les abords. Jamais elle n'avait laissé disparaître, sans se ménager un recours, l'humain qui aurait pu, le cas échéant, devenir son mari. Le carnet lui permettait, pendant qu'il était temps encore, d'approcher, de voir, de toucher les 7 ou 8 existences qu'eussent été sans Gérard ces existences possibles. Depuis 15 ans, d'une écriture qui avait changé, mais d'une encre invariable, car il y a deux pensions, mais un seul papetier à Aigueperse, Juliette avait noté tous les points de repère qui lui permettraient de retrouver un homme à peine entrevu. Astucieusement, en se rendant invisible et modeste, au lieu de suivre l'exemple des myopes qui ôtent leur lorgnon dans le voisinage d'une jolie femme pour paraître plus beau, et se privent ainsi de la voir. Elle avait tout observé, tout transcrit, et lui semblait partir pour lever dans Paris des balances tendues depuis son enfance. « Je suis, disait la page 21 du carnet, au théâtre de Vichy. Les deux dames, mes voisines, pendant le spectacle, se sont mises à rechercher l'homme le plus parfait qu'elles aient connu. Monsieur Falière est dans la salle. Oh, l'une est très âgée, l'autre est jeune et revient d'un voyage au Turkestan. Ah, voici l'entracte. Et soudain, les 1000 spectateurs disparaissent, me laissant seul avec ces sorcières qui vont me donner le secret de ma vie. Si l'on accepte le duc de Massa et un petit chef de gare russe nommé Samov, à la station même de Samarcande, l'être le plus parfait est un jeune homme qui n'a quitté que d'hier leur hôtel. Je le manque d'un jour. Une nuit a été la cloison entre nos deux existences. Il s'appelle Rodrigue. Il est milliardaire. Il a une automobile Bollée. Il continuera, disent-elles, l'élevage des bêtes bizarres qui s'élèvent ses parents. Et je n'ose regarder la dame jeune, mais j'apprends par cœur le visage de la dame âgée. Encore malhabile, Juliette marquait les croisements de sa destinée de repères bien volages ou bien périssables. Présence d'un président de la République, d'une voiture Bollée, d'un visage voué à une mort prochaine. Toute la description du visage de la vieille dame me suivait, en effet, avec chaque ride, chaque bijou. Description passionnée, car Juliette croyait décrire ainsi le transparent d'un visage neuf et inconnu. Suivait même la description de certains chardonnerets, car elle avait rencontré la jeune dame le lendemain au parc, près d'un massif où nichaient les chardonnerets, moins jaunes que les autres, aux œufs plus ovales, avec des crêtes vertes, dont elle avait recherché la variété dans le Larousse, écouté le cri, et qu'elle aurait reconnu ainsi les yeux fermés. Tel était le hasard qui avait lié Juliette, plus que toute autre jeune fille, aux animaux féroces. Tout le long de ses études secondaires, à cause de Rodrigue, le tigre, le jaguar, avaient trotté comme des animaux de perrault le long de ses études primaires. Cher Marie, qui au lieu de recourir à notre système métrique, comptait par bond de jaguar, par foulée d'hyène, par longueur de boa. Cher amant, qui au lieu d'équations et de monomes, intervertissait dans les cages l'ordre du loup et des panthères. Les premières leçons d'art, de peinture, de sculpture, servir seulement pour elle à embellir, à fortifier dans son imagination les formes, les fourrures et les griffes des fauves. Toute la nourriture généreuse que lui donnait la pension Formeau profitait à une ménagerie immense. Toute cette pression de science, qu'élargit aux yeux des élèves Balzac, Hugo et Napoléon, pour elle gonflait à éclater les onces de Néron et le lion d'Androclès. Tout oiseau un peu coloré qui l'effleurait, tout chat un peu tendre qui sautait sur elle, était un message, était échappé à son premier amour. Cher René, qui pouvait à la minute, simplement en poussant la porte de son jardin, contrôler sur les intéressés le sophisme de la tortue, le daltonisme du buffle. Quelle réponse vigoureuse et naturelle faisait aux inspecteurs généraux, qui croyait son cerveau hanté de la lymphatique ménagerie scolaire, sphinx, griffon ou licorne. Il s'étonnait, il ne savait pas, que l'étalon de vitesse était pour cette jeune auvergnate le goéland de force, le grizzly. Tel était celui qu'elle avait, au seuil de l'enfance, marqué avec Falière et des chardonnerets, et dont elle essaya, dès l'après-midi, de découvrir l'adresse à la Société protectrice des animaux. Le secrétaire était là, qui brossait une dépouille d'oiseau de paradis et la collait sur un mannequin. Il la maintint des deux mains pour que la colle prît, comme jamais me fut maintenu oiseau de paradis vivant, là-bas en Nouvelle-Guinée, après sa capture au piège. « Éleveur d'animaux bizarres, répéta-t-il. Expression bizarre, mademoiselle. J'ai vu des hommes bizarres. J'en ai vu par milliers. Jamais une seule bête, si vous appelez bizarre, comme moi, l'être qui agit en non-conformité avec sa nature, qui dénonce le contrat conclu avec l'espèce. Un banquier, par exemple, est bizarre, qui accepte qu'on le paye en papier au lieu d'or. Vous serez vraiment obligée, mademoiselle, de me citer des bêtes bizarres. J'avais pensé, dit Juliette rougissante, des tapirs, des agoutis. Mais vous me répondez, mademoiselle, par ce chien de sainte qui va matin et soir tirer la cloche de l'église. On en a fait grand bruit, parce que sainte est la première paroisse où était sonné l'Angélus. Moi, je trouve bizarre non le chien, mais le curé qui permet ce scandale. Mais enfin, dit Juliette, un tatou est un animal bizarre, on ne peut pas dire le contraire. Un banquier, oui, mademoiselle. Pour le tatou, vous tombez mal. Je suis inspecteur de la société. Je visite les fêtes foraines et depuis 6 ans, je vois justement une fois par semaine un couple de tatous qui creuse sans arrêt le sol pour fuir sa lampe d'acétylène. Regagner le soleil des Incas. Le barnum les présente comme deux animaux qui recherchent les trésors, affolés par tous ceux que recèlent Pantin et la Roquette. Ils ont eu la semaine dernière un fils. Toutes les petites encoches de son test pour ciel schiste mexicain sont déjà visibles. Tout son vertex pour écarter la fourmi colombienne est déjà constitué. Les 60 boucliers de ses lombes sont déjà articulés pour écraser le manioc bolivien. On peut déjà le lâcher impunément dans le continent pour lequel il fut créé. Je défie n'importe quel banquier de Paris de me montrer un fils aussi rapproché de l'archétype. N'insistez pas, mademoiselle, vous êtes jeune. La bizarrerie des hommes vous réserve des surprises. Savez-vous ce qui chante le plus chez les hommes? Qui chantent le plus en cœur? J'ai habité près d'un orphelinat. Bien, ce sont les orphelines. Il se leva. C'était un vieillard qui n'avait pu, au cours d'une longue vie, apprendre à s'habiller. Ou plutôt, il paraissait habillé de l'intérieur. Ses chaussettes mordaient sur son pantalon, qui lui-même mordait sur le gilet. Comme il saluait Juliette, ses bretelles le cassèrent. Ah! Comme les vêtements seraient plus commodes et ajustés, si au lieu de les enfiler, on les collait au corps avec la colle adoptée dans les succursales de la société protectrice pour les dépouilles d'oiseaux de paradis. Il est doux pour une âme bien née de gravir pour la première fois les pentes de la Sainte-Geneviève et de découvrir ombragées de branches profanes qui dépassent de vieux murs et connaissent tout de la vie et des scandales de la rue, alors que le tronc de l'arbre lui-même vit au milieu des séminaristes, les sources tranquilles de ces lignes d'autobus, qu'on ne voit généralement que bruyantes et gorgées par leurs affluents. Juliette allait à l'école normale supérieure, sur les conseils du secrétaire. Aux alentours du Panthéon, tous les lycées ou pépinières où s'élèvent ceux qu'on enterrera sous ce dôme étaient ouverts et leurs pensionnaires en vacances. C'était les vacances. Pas un seul futur sauveur de la patrie, pas un futur inventeur de rythme, pas un seul futur parrain de métal et d'astre qui ne fut dans ce moment jusqu'au cou dans la mer ou attaché à un guide par une ficelle. La girouette du Panthéon n'indiquait guère qu'à Jean-Jacques Rousseau, qu'à Berthelot, que le vent soufflait du sud. Aux terrasses des tavernes, de beaux Anglais regardaient Juliette. Par un réflexe de sa coquetterie, n'ayant jamais mis de rouge ni de poudre, ni sur son visage de fausse indifférence, ne sachant trop comment répondre au regard de désir, c'était ses sentiments que Juliette fardait. Jamais bel Anglais n'avait regardé âme plus poudrée, pudeur plus distinguée et dévouement à la vigne sanglée. Juliette allait, engourdie par le soleil, dans l'incapacité absolue, tant le fait de n'être pas gaucher prime tout sous le regard des jeunes Anglais, de ne pas prendre la première nue qui s'offrait à sa droite. Bien lui en prit. Tourner à gauche lui menait à Polytechnique, alors qu'elle trouva soudain normal sous ses pas. L'école normale était entr'ouverte, comme le sont aussi la nuit et le dimanche le palais et le quai d'Orsay. La République exigeant que tout citoyen puisse se jeter à quelque heure que ce soit dans la science, la justice et la politique étrangère. Après avoir traversé une première cour carrée où le passant était épié par les 60 bustes des grands hommes qui surent le mieux observés, Lavoisier, Cuvier ou Cheverel, puis un jardin bordé par la rue Claude-Bernard et où tout promeneur était épié, plus scientifiquement encore, par 60 concierges, Julie parvint à l'enclos où l'observation semblait cette fois personnifiée par un jeune homme qui étudiait au microscope sous l'auvent d'une baie ouverte et qui riait. C'était le préparateur en sciences naturelles de l'école. Et l'homme, dont le rire était commandé par la tragédie la plus minuscule de la création, quoique la plus longue en durée, car il surveillait sur un fragment d'étamine le mariage de l'Articia crispa, qu'il faut 2 ans pour féconder, Juliette lui posa la question sur les éleveurs d'animaux bizarres. Mais il essaya de la détourner vers le règne végétal, faisant entendre par animaux bizarres les animaux les moins mobiles, comme le brochet ou l'huître, et par analogie les végétaux migrateurs. C'est ainsi, lors de l'agrégation, que son maître l'avait lui-même détourné de la zoologie vers la botanique, et il tenta de convaincre Juliette. Que ne lui raconta-t-il pas des plantes ? C'est chez elle seule, affirmait-il, que Juliette trouverait la bizarrerie, l'étrangeté, la folie. Elle ne pouvait imaginer à quelles opérations les fleurs peuvent se livrer et complaire, infidèles s'il en fut aux promesses faites de l'espèce. Avec son cinématographe, il montra à Juliette l'éveil des étamines chez les végétaux dioïques, l'alliance avec lui-même du zinnia. Il sortit d'une serre la plante la plus sensible qui existe, la Cephalea lolana, qui jette par ses fleurs un jet d'eau quand on la retourmente, la plante qui pleure. Aucun contrat de l'espèce pourtant n'a jamais obligé une plante à pleurer. Il chatouilla le Cephalea d'une paille. Les larmes vinrent à ses propres yeux. Il lui découvrit ainsi la criée des dahlias à Boschop, en Hollande. L'aiguille se mouvant sur un cadran avec des numéros éclairés par les lampes rouges qu'actionnent les acheteurs. Tout cela dans le silence, un peu tristement, comme si les dahlias s'achetaient eux-mêmes. Il s'emporta. Tout ce qu'on peut dire pour inspirer à une jeune fille le dégoût des êtres qui boivent le Dubonnet, qui mangent de la blanquette à l'ancienne. Et surtout, quelle impuissance qui marche et l'amour des êtres qui communiquent entre eux, non par des cris, mais par des lianes, non par des serrements de main, mais par des mélanges d'ombres, le dégoût des vésicules, des ventricules, l'amour des tissus, des pollens, fut avancé par ce jeune homme, d'ailleurs agréable, et dont les yeux, une fois privés de microscope, semblaient des organes exclusivement destinés à voir chez le prochain les qualités végétales et morales. Elle avait oublié le soleil et le Luxembourg. Elle s'assit dans le jardin. Chaque vivant, chaque passant, redonnait à son âme l'opacité première. Elle retrouvait avec amitié ses plantes jadis indifférentes, ses adorums, ses ricins, ses fuchsias, rencontrée tout à l'heure à l'école normale et qui ne la transperçait d'aucun égard, à part un camélia. En quoi un camélia est-il un édifice sur lequel elle lui posait sa main comme sur les yeux d'un curieux? Les semences, jetées dans son âme par le petit préparateur, germaient d'ailleurs déjà. Le grand platane avait poussé pour elle depuis son dernier passage, des rosiers embaumés. La garde républicaine avait terminé son concert, et la foule se distribuait, selon l'effet qu'assurait la musique militaire, entre les statues et les eaux. Ce fut l'heure où Juliette, trompée depuis 20 ans par la manie de son oncle, qui n'imaginait plus qu'un obélisque ou une stèle fussent consacrés à d'autres qu'à des traîtres, effleurant une statue d'un regard machinal, vit un visage souriant, s'approcha pour voir l'inscription, et lut Théodore de Banville. Ce n'était pas Iago, ce n'était pas Ganelon, c'était Théodore de Banville. Elle se leva, elle caressa le premier visage de pierre qui personnifiait pour elle une vertu. Elle parcourut libérée ce jardin où les félons s'appelaient enfin Zénaïde, Fleuriot, Ferdinand Fabre. La race des hommes de pierre était soudain régénérée. La race des hommes de chair y gagna. Chaque être vivant, assis ou debout sur la terrasse, parut un petit monument élevé à lui-même. Confiante à nouveau, Juliette descendit d'un grand pas vers la société d'acclimatation. M. Guillet, le vice-président, était assis devant son courrier du soir. Les lettres étaient nombreuses, car il venait d'être guéri miraculeusement d'une péritonite, et les correspondants des sociétés d'acclimatation du monde entier le félicitaient. Chacun, en cadeau de convalescence, lui annonçait sa dernière trouvaille en animaux, en insectes ou en légumes inconnus et la lui dédiait. L'univers, en l'honneur de cette fistule, avait jusqu'à ce jour pavoisé 35 nouvelles variétés d'êtres, dont 12 comestibles. De chaque continent s'élevait à la gloire du vice-président Guillet une saveur nouvelle, des cris inédits. Aux îles Samoa, aiguille avalée le siècle précédent, le serpent Baïa, disparu des Indes depuis Duplex, était ressorti de la planète. Du flanc meurtri de M. Guillet, pour le paradis des naturalistes, avait ainsi surgi l'hydropotos parisien 6, le cervus guilletti, la lymphéa peritonitanea, et que ne serait-il pas, pensait mélancoliquement le convalescent, de la terre revue un jour prochain de sa mort. Il écrivait justement au tableau tous ces noms latins nouveaux, ces litanies qui n'avaient jamais encore été ni chantées, ni même prévues par aucun personnage divin, quand Juliette entra avec une rose à son corsage. C'était une rose commune. M. Guillet la regarda un moment comme une rose nouvelle. Cela lui était arrivé d'ailleurs toute la journée pour les œillets, pour la salade. Quelle forme nouvelle de la vie de cette jolie fille apportait-elle? Il vint écouter le tout près, comme si elle allait lâcher un écureuil. D'ailleurs, il y avait des grillages aux fenêtres ouvertes, non pas que M. Guillet eût des enfants en bas âge, mais rares étaient les humains qui pénétraient dans ce local sans un petit jaguar dans un panier ou un oiseau dans leur poche. Juliette expliqua quel jeune homme elle recherchait, et donna les repères fournis par les deux dames, initiales du prénom R, du nom B, parents célèbres dans l'art d'élever les animaux bizarres. Juliette se défiait des hommes. Elle ne se sentait pas sûre au milieu des animaux. D'où vient qu'elle se trouvait tellement à l'aise au milieu de ces hommes voués aux animaux? Car M. Guillet n'était pas seul. Il y avait avec lui les trois êtres humains dont les empreintes digitales peuvent se rencontrer le plus fréquemment sur les bêtes malades, herbivores ou carnivores. Il y avait là le secrétaire de la société de protection, du corps duquel venait de jaillir un nouveau vêtement, encore pris dans le faux col et le caleçon, un par-dessus à boutons cousus à l'envers. Il y avait là M. Dulloz, de Raid-Marne Xaintrailles, ruiné mais épanoui, affamé mais gras, qui signait maintenant Dulcas de Red de Marrezir Centrailles, car ce nom était le miroir de sa vie, qui n'avait guère été qu'une longue série d'apocopes, qui avait été la contraction misérable d'à peu près autant de beaux sentiments qu'il avait de titres. Et à mesure, faute d'argent, de chance et d'amour, que sa loyauté fusionnait avec son goût pour la bonne chère, son courage avec le non-ressemblage de ses souliers, il laissait le nom de son aïeul Loas, habit de Blanche de Castille, se fondre avec le raie de l'ogre et celui du compagnon de Jeanne d'Arc, avec le marne de Pépin. Il en était aujourd'hui à se demander s'il n'écrirait pas son nom en unique mot, car sa vie éculée, sa misère uniforme, correspondait assez à du Loas de Ray de Marne Exentrailles. Il y avait là aussi un vieillard qui n'avait pu se venger sur son nom des infortunes de sa vie, car il s'appelait Bay, auquel des malheureux particulièrement choisis, mort d'une femme adorée, mort du fils unique, avait laissé seulement l'apparence d'un être câblé de menus et légers accidents, bousculades, tuiles sur l'épaule, et que les plus épouvantables malheurs avaient seulement marqué de plâtre et de cambouis. D'une timidité telle que lorsqu'il avait demandé un numéro de téléphone, on ne voyait plus, il s'enfuyait de honte, il devenait plusieurs heures invisible. Tels ils étaient, tous quatre, qui se croyaient réunis par l'amour du canari huppé, et qu'assemblait en fait l'amour pour les trois autres, l'amour pour ce qu'il y a de plus digne dans l'humanité et de ce que la vie a traité de plus indignement. Ils s'étaient réunis aujourd'hui pour protester contre l'usage fait par les spirites des canaris huppés, race spécialement résistante, dont Eusapia et Eva comprimaient un retranchant dans une recoin de leur voile ou de leur corps, et le délivraient, quand elles prétendaient, ramener leur double astral des Indes ou de Madagascar. Béni soit le canard huppé, qui avait été prendre chacun sur le quai de l'horloge, l'un d'eux-mêmes, M. B, bien plus près de la Seine, par ses vols jusqu'à cette salle, derrière laquelle, enclave au monde du paradis où se continuait par des croisements entre le canari et le bouvreuil, la besogne de création interrompue un samedi à minuit par Dieu. Le secrétaire prenait part à la conversation par des phrases qui n'avaient aucun rapport avec elle, mais qui cependant, mieux qu'un résumé textuel et ainsi que l'argument des chants dans les poèmes épiques, exprimaient le ton général et le niveau des âmes. C'est ainsi qu'après l'exposé de M. Dulaos contre Eusapia, il avait dit « Un abbé qui a beaucoup voyagé, avait-il dit, m'a dit, la mer, c'est comme la confession, terrible ou fastidieux. Oh, »« Évidemment, avaient répondu ses trois amis. » Et c'est alors que Juliette était entrée, guidée par un canari invisible. « Je ne vous dirai pas tous les détails de la rencontre, ni comment Juliette, en les quittant, fut amenée à les embrasser tendrement. À leur vue, elle avait éprouvé cet accès de confiance que l'on n'a guère qu'une fois dans sa vie, et encore à l'égard de personnes peu susceptibles de se moquer des secrets ou de les trahir. L'océan, la première étoile, ou la chanson de l'oiseau dans Siegfried. Un accès de confiance tel que le secret à confier n'en a plus d'importance, cède le pas à des descriptions de meubles anciens ou à des histoires de chasse, et disparaît dans une plénitude de sympathie pour l'univers, pour les antiquaires, pour les dadas, comme le soleil d'été dans son rayonnement. Eux aussi, mis en confiance, lui racontèrent pourquoi ils avaient manqué leur vie. « J'ai manqué ma vie par ma faute, avoua M. B. Il m'y suffit peut-être, pour être heureux, de consulter les statistiques. Mais avec une femme anémique, j'ai accepté un poste dans le département où meurent le plus de pulmonaires. Avec un fils audacieux, j'ai sollicité mon changement pour le département où l'on compte le plus d'accidents de montagne. Maintenant, enfin, par ironie, j'habite la ville où il y a le plus de centenaires. Je sais tout cela depuis peu. La statistique m'a vaincu. J'ai suivi l'itinéraire Nice-Grenoble-La Ferté, alors que mon bonheur exigeait Pau, Tours et le chemin des dames. J'ai manqué ma vie, dit M. Guillet, parce que je n'ai jamais traité un seul être au monde comme il l'aurait fallu. J'ai traité, par exemple, les hommes comme on traite les femmes, et inversement. Je croyais les hommes sensibles, ardents, nerveux, de santé faible. Je les menais à la musique, je les comblais de prévenance, de flatterie. Je croyais les femmes réservées, musculaires, non susceptibles. Je leur disais leurs fêtes, je les réveillais tôt. De là vient que ma vie est perdue. J'ai traité les chats comme on doit traiter les chiens. J'essayais de les convaincre, je les raisonnais, et j'étais au contraire plein de réserve et de hauteur pour des chiens qui sans nul doute m'ont adoré. J'ai fait le malheur de ma vie. Celui qui ne sait pas se conduire exactement vis-à-vis de chaque espèce est perdu. Vis-à-vis des antilopes seulement, j'ai conscience d'avoir réussi. Elles me suivent, elles me lèchent. Tout cela a commencé le jour où au lycée, j'embrassais le pion qui dormait. Heureux ceux qui ont embrassé la bonne. Dans les répertoires des vies de héros depuis Saint-Louis, dit à son tour Monsieur Dulas, je crois que les lois entre toutes les familles de France revendiquent le plus fort pourcentage. Mais ils ne peuvent être que héros. Dès qu'un loas admet un rythme moins rapide ou une conception moins tendue de l'existence, il doit se rendre au monde-piété et donner des leçons. Seuls les héros et les saints dans ma famille ont réussi à garder leurs diamants. Seuls les loas martyrs ont été décorés. J'ai essayé de suivre leur exemple, mais l'intensité d'honneur, de témérité, de vertu qu'il m'a fallu porter et maintenir au rouge pendant 3 mois, simplement pour passer mon baccalauréat, m'a découragé pour toujours. Et vous, monsieur le secrétaire ? Le secrétaire prit son temps. Quand meurt, dit-il enfin, quand meurt une personne aimée à laquelle vous devez une lettre, si vous êtes égoïste, vous vous en réjouissez. Si vous êtes bon, vous n'aurez de tranquillité qu'après avoir écrit cette réponse. La phrase du secrétaire servant, on ne sait pourquoi, de transition entre les 3 discours et les désirs de Juliette, amena M. Guillet à chercher dans l'annuaire de la société le jeune homme parfait. 2 collègues répondaient au signalement. Même âge, mêmes initiales, le fils Belvoir et le fils Blanche-Marine. « Ah, je connais le fils Belvoir, » dit M. Dulas. « C'est le contrôleur pour le Harper Magazine de toutes les histoires d'animaux. Vous vous rappelez que Roosevelt s'était désabonné après avoir lu dans cette publication un conte du pasteur Burke, d'après lequel les renards se feraient mutuellement des pansements. Et Harper ne souffre plus qu'il soit publié sur aucun animal d'affirmation invraisemblable. Le fils Belvoir m'envoie chaque trimestre le recueil des passages qu'il est contraint d'échopper ou de corriger dans les auteurs français. Nos écrivains d'ailleurs passent dans les pays anglo-saxons pour connaître aussi peu les bêtes que les enfants. L'idée que se fait Bourget de la simple chèvre, Maupassant du homard, prétend Harper, dépasse vraiment l'imagination. Harper cherche également un censeur analogue pour les actions des hommes. L'idée que se fait de Jules Laforme le stupéfie. « Son prénom ?» demanda Juliette. « Romuald, » dit M. Guillet. « Non, ce n'était pas cela. »« Alors, » dit M. Guillet, « votre futur mari est le fils Blanche-Marine, dont les parents tiennent au Brésil la ferme des serpents venimeux, élevée pour les instituts du Pasteur. Je l'ai rencontré chez M. Rollinat d'Argenton, où il faisait un stage pour étudier l'aspic du Berry. Celui-là même... Oh, les berrichons vont-ils se nicher? Celui-là même qui piqua Cléopâtre. Être charmant, habitué à saisir les bofflops qui vous touchaient d'une main hardie et juste à la place du bras où la pression vous rendait inoffensif. Et pour arrêter l'ami qui médisait, la femme qui commençait à haïr, Blanche-Marine les saisissait doucement et renaissait l'amitié et l'amour. Il voyait du premier coup d'œil si vous étiez de ceux que l'on calme par le cou, ou par la taille, ou par l'épaule. Une recherche excessive peut-être dans ses souliers et ses chaussettes, peut-être parce qu'il était américain du Sud, mais surtout parce que c'est à la jambe qu'il attendait la mort, piqué à la cheville comme presque tous ses aînés. Mais un grave de ses jarretelles était d'or, garni de brillants. Son prénom ? Demanda Juliette rougissante. Oh, une fois, interrompit le secrétaire, l'un de mes ancêtres emmena à la guerre de 7 ans un petit fox nommé Friquet. Il l'y perdit. Quelle fut ma surprise, la guerre achevée, de voir arriver un beau jour d'Allemagne le petit Friquet à sa maison de Touraine. Son prénom, insista Juliette. Friquet, dit le secrétaire. Mais il revint avec un collier qui portait en caractère gothique Belloff. Il s'appelle Rodrigue, dit M. Guillet. Juliette ferma les yeux. C'était bien son nom, Rodrigue et Juliette. Elle répéta ses deux prénoms, et tous les prénoms aussi que les poètes croyaient avoir accolés pour l'éternité se dégagèrent et formèrent des couples nouveaux. Roméo s'unit à Armide, Béatrice à Pétrarque, aux quatre coins des grandes amours, Desdemone au Cid, Rodrigue et Juliette. Ils étaient enfin mariés, ces deux prénoms que tout romantisme, tout classicisme, que le génie semblait à bout de bras avoir écarté pour toujours. Avis aux écrivains, une nouvelle gravitation pour les cœurs était créée. Ou plutôt, dit M. Guillet, ah, mademoiselle, quel chagrin je cause. Ou plutôt, il s'appelait Rodrigue. Il s'appelait. À la menace de cet imparfait terrible, tous les couples dépareillés se reformèrent avec fracas. Béatrice et Dantès, Desdemone et Othello reprirent à vie aux annales leur perpétuel accouplement. Car je trouve dans ce dossier, continua M. Guillet, la lettre suivante qu'on m'envoie du Haut-Paraguay et que mon opération m'a empêché de lire. « Monsieur Guillet, cette semaine a été funeste car nous avons eu la douleur de perdre notre ami Rodrigue Blanchemarine. Vous savez combien il aimait nos convoyeurs Guarani. Ils nous forçaient à apprendre leur langue car il n'y avait aucune chance qu'ils apprissent la nôtre. Leur langue qui n'emploie que des mots d'amour et parfois si excessifs que le chargé d'affaires de France au port Garguet dut retirer sa fille de l'école à propos du simple vocabulaire de la leçon de couture. Les repas, la chasse aux orchidées, la pêche du poisson ferrugineux que l'on attire hors de l'Orénoque avec des aimants, tout n'était ainsi pour nos Guaranis et pour nous que des opérations amoureuses. Soleil, lune, singe trouvant le plafond de ces orchidées qui pousse dans les premières fauches de troncs lisses jusqu'à 40 mètres. Tout n'était qu'organe et qu'instrument d'amour. Et quand il nous arrivait de parler français entre nous, nous éprouvions ce froid qui saisit le corps quand on sort d'un fleuve tiède. Tenez, monsieur Guillet, songez que l'adjectif Guarani se place au cœur même du mot, l'article au cœur de l'adjectif, l'apostrophe au cœur de l'article. Nous voyons quelquefois de loin nos Guaranis caresser les indigènes, les embrasser. C'est qu'ils discutaient, c'est qu'ils demandaient le guet. Une seule femme Guarani était avec nous, qui servait à doubler encore, mon monsieur Guillet, la volupté de notre vocabulaire. Car chez les Guaranis, la langue des femmes et celle des hommes sont différentes. Un de nos chasseurs d'orchidées se vit d'une entorse à la plus haute fourche de l'acajou, et Rodrigue s'offrit pour le descendre. C'est alors, hélas, que nous eûmes employé le mot Guarani le plus tendre, celui qui désigne la mort. Ah, qu'il nous fut pénible de mettre au centre de ce mot le prénom du petit Blanchemarine et chacune de ses vertus, car il ne voulut pas, mi-hauteur de la corde à nœuds, lâcher le blessé qu'il tenait à deux mains et arrêter dans son élan le serpent minute qui le suivait sur le tronc depuis le fête. Chaque Guarani, quand il fut mort, suça la piqûre pour qu'il pénétrât guéri dans leur ciel, adora la jarretelle défaite, étendue près du mollet comme un serpent divin, à yeux brillants, nés du sacrifice. Et nous avons hissé, selon leur coutume, le cercueil au faîte du plus grand des arbres, et au-dessus même des fleurs. Le secrétaire pleurait. Bien des gens, trouva-t-il la force de dire, quoique le mot Bayonne est la forme la plus ancienne pour désigner la ville, erreur profonde, elle s'appelait Labourdon. C'est ainsi que la faune du monde fut écartée de la ville Juliette. C'est ainsi que, par la mort de Rodrigue, de même que l'ami intime de Citroën, du jour où il s'est brouillé avec Citroën, voit l'univers sillonné non plus de messages amicaux, mais de tacos indifférents, s'éteignirent en l'âme de Juliette toutes ses parentés qu'elle croyait avoir avec les bêtes.